nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Focus où nous mettons à l'honneur aujourd'hui les calendriers. En effet, ceux-là même qui ont permis la mesure du temps depuis bien des siècles. Nous en parlons avec Mireille Pastoureau. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes directrice de la bibliothèque de l'Institut de France où se tient jusqu'au 30 mars 2012 une exposition consacrée à l'histoire des calendriers. Exposition dédiée à Emmanuel Poul de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui nous a quittés en 2011. Nous en reparlerons. Alors on trouve beaucoup de calendriers témoins de l'histoire de nos pays, de nos religions, de nos époques. Pourquoi présenter des calendriers, Madame Pastoureau ?
Eh bien parce que j'ai découvert dans la bibliothèque un assez grand nombre de documents qui pouvaient illustrer ce thème. Et aussi parce que nous étions en début d'année, l'exposition a commencé le 2 janvier. Donc c'était une façon de souhaiter la bonne année aux académiciens de l'Institut. Et plusieurs membres d'académies différentes peuvent être intéressés par ce thème. L'Académie des sciences, bien sûr, mais aussi l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avec tous les savants de l'Antiquité qui s'intéressent à l'Antiquité, l'Académie des beaux-arts, en fait, toutes les académies sont concernées, et nous tous, par ce thème de la mesure du temps.
Qu'est-ce qu'on trouve dans cette exposition ?
Donc, on trouve des documents qui illustrent l'histoire des calendriers, l'histoire de la mesure du temps, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, notre calendrier actuel remonte très très loin, non seulement aux Égyptiens, mais même aux Babyloniens, et que le ciel, c'est un livre depuis toujours, et c'est le premier livre que les hommes aient connu, et c'est aussi le même livre que nous pouvons regarder actuellement, c'est-à-dire que c'est sans doute une des choses au monde qui n'a pas changé depuis l'Antiquité, c'est regarder la course des astres, les étoiles, les phases de la lune, et tous les hommes en ont tiré une organisation et un mode de vie.
Est-ce que le calendrier, vous pensez qu'il rassurait ou qu'il fascinait peut-être à l'époque ?
Le calendrier était nécessaire. D'une part parce que...
D'un point de vue pratique, c'était important de l'avoir.
C'est capital.
C'est toujours important.
C'est un point de repère, voilà. Et alors, on constate qu'il y a toujours eu une opposition. Bon, je schématise beaucoup parce que je ne suis pas scientifique, mais une opposition entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Les premiers hommes étaient des pasteurs, ils gardaient des troupeaux. Donc, ce qu'ils observaient en premier lieu, c'était les phases de la lune. Donc, le cycle lunaire s'est imposé à eux. Mais le cycle lunaire ne rend pas compte de la succession des saisons qui, elle, est liée directement au cycle solaire. Et quand les hommes se sont sédentarisés, quand ils sont devenus des agriculteurs, notamment les Égyptiens, dans la vallée du Nil, et qui ont observé les crues du Nil, à ce moment-là, ont eu besoin de mesurer le cycle solaire, qui est en léger décalage avec les phases de la Lune. Donc on a dans tous les calendriers un peu cette contradiction, cette bipolarisation entre calendrier lunaire, calendrier solaire.
Quels sont les calendriers qui retiennent l'attention par une originalité, une rareté, une richesse toute particulière au sein de cette exposition ?
Alors nous avons la chance d'avoir des documents orientaux et pas seulement occidentaux dans notre bibliothèque. Donc l'exposition commence avec le calendrier égyptien antique puisque nous avons un dessin du zodiaque de Dendera qui est un bas-relief astronomique qui a été acheté par la France à l'Égypte à l'époque de Louis XVIII, enfin, qui avait été découvert par l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Donc c'est un calendrier qui représente le ciel avec une influence babylonienne mais aussi grecque et romaine. C'est égyptien tardif. Donc c'est le premier document. Et alors après, nous avons des calendriers hindous et tibétains.
Extraordinaire.
Oui, vous savez, nous sommes une bibliothèque savante, une bibliothèque d'érudits qui, dans le passé, a reçu des dons de collectionneurs et notamment le calendrier tibétain, le livre tibétain d'astrologie et d'astronomie qui est du XVIIe siècle, a été donné par le baron von Schilling von Cannstatt en 1835, qui était un aristocrate balte vers la Russie et qui avait voyagé jusqu'en Asie et qui avait, donc on a des documents tout à fait étonnants, à la fois ancien, à la fois moderne. J'ai trouvé aussi un calendrier chinois pour 1919. Je ne connais pas son origine, mais c'est assez amusant. Donc, nous avons des calendriers orientaux, mais musulmans également. Nous avons un Coran qui est montré, des hébraïques, naturellement. On a également des calendriers hébraïques. Mais surtout, ce qui est important pour notre civilisation et notre calendrier actuel en est l'héritier, c'est le calendrier julien, le calendrier romain. tel que Jules César l'a défini en 45 avant Jésus-Christ. Alors, bon, là, ce sont des documents postérieurs, notamment archéologiques, que nous montrons, et c'est ce calendrier julien qui a dû être réformé au XVIe siècle par le pape Grégoire XIII. C'est la fameuse réforme grégorienne qui est à l'origine de notre calendrier actuel.
Une richesse incroyable, et vous dédiez l'exposition à Emmanuel Poul, vous pourriez nous en parler ?
Oui, Emmanuel Poul était un grand historien des sciences que j'ai bien connu personnellement parce qu'il a été professeur à l'école des Chartes où j'ai été élève, il en a été directeur. Il était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et c'était un spécialiste mondial de l'astronomie médiévale. Il avait été secrétaire perpétuel de l'Académie internationale d'histoire des sciences. Et malheureusement, il a disparu en 2011 de maladie. C'est une grande perte pour la science et puis pour toute la communauté chartiste. Et donc, il était proche de notre bibliothèque. Il venait très souvent. Et donc, cette exposition lui est dédiée parce que nous pensons encore tous beaucoup à lui.
Nous terminons sur un petit mot plus personnel. Tous ces calendriers, qu'indiquent-ils sur les hommes, leur histoire ? Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur de réaliser cette exposition ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est un peu vertigineux. Déjà, j'ai réalisé à quel point nos usages actuels avaient des racines anciennes. Et je ne veux choquer personne, mais je dirais même des racines païennes. Je trouve que tout remonte très très loin. Et en même temps, on voit quelle insatisfaction tous les systèmes ont engendré. Aucun système de calendrier n'est satisfaisant. J'ai découvert qu'il y avait encore des associations de réforme du calendrier actuellement qui voudraient réformer. Parce que quand on y réfléchit, notre calendrier n'est pas commode du tout. Les mois n'ont pas la même longueur. Les années ne commencent pas par les mêmes jours. Et des années bissextiles, c'est extrêmement compliqué de se rappeler pour les années séculaires. Donc le calendrier, en fait, n'est pas vraiment satisfaisant. Et il y a encore des personnes qui cherchent comment le rendre plus rationnel et comment unifier tous les pays. L'ONU a tenté des réformes qui, naturellement, n'ont jamais pu mettre tout le monde d'accord. Et en même temps, cette histoire de calendrier, c'est en même temps extrêmement poétique. Je me suis aperçue que les astronomes étaient des personnes passionnées, qu'ils adoraient le ciel. J'aime beaucoup une phrase d'un historien de l'astronomie qui s'appelait Bailly au XVIIIe siècle. Bon, le pauvre, il a eu la tête coupée à la Révolution, mais il a écrit des histoires de l'astronomie et il a une phrase très jolie. Il dit « On peut dire que dès que le ciel a eu des témoins, il a eu des admirateurs. » Et vraiment, c'est vrai que les astronomes sont des admirateurs du ciel. Et c'est très beau de contempler le ciel, d'imaginer le zodiaque, les constellations. Et bon, ça fait des siècles et des millénaires que les hommes prennent du plaisir à cela. Et je crois que ça continuera jusqu'à la fin des temps.
Écoutez, nous le souhaitons et nous souhaitons bonne vie au calendrier. Que deviendra-t-il ? Telle est la question. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parler avec nous de cette exposition. Comment faire pour la voir lorsque nous ne sommes pas membres de l'Institut ?
Alors, il suffit d'aller sur le site internet de la bibliothèque et d'envoyer un courriel, un email ou bien de téléphoner. On vient sur rendez-vous. C'est tout à fait possible.
Donc,
mais
c'est possible.
Il faut s'enregistrer auparavant parce que l'Institut est un lieu de travail où les académiciens travaillent. Donc il ne faut pas qu'il y ait interférence entre les visiteurs et les académiciens au moment où ils travaillent.
Entendu, merci beaucoup. Nous nous retrouvons très bientôt sur canalacademy.com.